Moi j'ai une première question, c'est par rapport au... Comment tu as travaillé avec les tunnels? Vous avez dit qu'au début, quand tu as pris l'affaire, c'était à la télévision.
C'est un journal local.
Est-ce que tu as un peu. Qu'est-ce que les médias disaient de ce crime-là? Et puis comment tu as essayé de. Est-ce qu'il y a eu un travail de déconstruction là-dessus? Des comparaisons ou pas? Et puis, après, des autres questions plus sur l'écriture. Que Solveig a dit avant que c'est un peu comme un polar, mais justement, est-ce que au-delà de plaisir d'écrire de, comment on écrit, là, comment t'as, quel type d'écriture, est-ce que vraiment cette idée de polar, c'est quelque chose qui a été recherché dans la mise en écriture, comme ça, ou plutôt pas à la base, bref. Et puis aussi sur comment est présent ce jeu dans le livre. Il y a soit de mettre le jeu en avant, mais. Quel type de jeu c'est justement dans ce
film? Oui, mais trois bonnes questions. Hein. La première, la média. Alors dans la thèse, je la travaille. Je la travaille beaucoup moins dans le livre. C'était compliqué parce que notamment j'ai eu cet échange avec Laurent Mucchioli qui faisait partie du jury. Parce que c'était compliqué d'avoir. On avait des données relatives en fait par rapport aux médias. À l'époque, il y a eu une couverture locale très très prolixe. Avec une fascination sur l'aspect morbide également. Je me souviens aussi d'un article dans Libération de Michel Ambarek qui jouait aussi sur la tension entre la beauté du paysage au petit matin où a lieu le crime et l'aspect cruel du crime. Donc très de manière très très romancée. L'article reste central, hein, c'est un des articles les plus aboutis sur le crime. Il y a eu des articles dans l'Humanité aussi, Le Monde, etc. Mais à l'issue du procès, juste pour le verdict. Il y a eu un article aussi dans Le Nouveau Détective. Mais je veux dire, au niveau de la... Forcément, avec les aspects que vous savez d'avance. Ce que je veux dire, c'est que ça révélait finalement les médias. Je n'ai pas trop travaillé dans le livre, mais dans la thèse. Les médias permettaient de répercuter les débats du procès. Et pour moi, ce que j'ai appréhendé, c'est qu'ils sont formidables courroies de distribution des enjeux symboliques et identitaires qui se jouent dans le procès d'assises. Et la cour d'assises reste un formidable lieu de construction des représentations sociales et du travail, des représentations en lien avec la société présente. On voit sur la question des procès, il y a la radicalisation dernièrement. Je pense au procès d'Abdelkader Merah notamment, avec le débat avec Moretti et tout le tralala du pont Moretti. Enfin bon. Oui, je l'ai abordé, mais peu abordé, j'avais peu de matière. Sur les représentations sociales par rapport au procès d'assises. Donc, c'est pas l'enjeu du livre. Deuxième question, la question du polar. Alors, c'est une vaste question. Aujourd'hui, on est aux éditions de la Découverte. On connaît tous les éditions de la Découverte. Donc, c'est pour un public assez large, mais en même temps spécialisé en sciences humaines. Donc, il y a presque un triple niveau de lecture dans ce livre. Premier niveau de lecture pour des universitaires avec des notes de fin, donc il y a des liaisons, il y a aussi des occurrences méthodologiques, scientifiques, il y a l'enquête, des références à Foucault, comme vous avez bien compris, c'est une de mes références intellectuelles. Et puis, deuxième lecture, un public plus lambda, effectivement, qui peuvent lire le livre à l'image d'une enquête policière, à rebours, on connaît déjà la fin. À rebours, et donc abordable pour un large public. Ça me fait vraiment plaisir également. Et puis troisième grille de lecture, ça peut être aussi pour des acteurs sociaux de proximité qui peuvent appréhender aussi comment c'est agencé, comment cas un cas, il y a eu un suivi social, les points de bifurcation qu'il aurait pu avoir, et puis également les difficultés qu'il y a eu. Donc il y a un croisé, c'est un livre à la croisée de plusieurs chemins. Voilà, professionnel, personnel, universitaire. Et la troisième question, la question du jeu, je l'abordais tout à l'heure, c'est un jeu finalement multiple. Hein. On parle de double jeu, je crois que c'est ta communication, le double jeu. Le double jeu, oui, il y a un jeu professionnel, il y a un jeu universitaire, il y a un jeu personnel. C'est au croisement de toutes ces singularités existentielles personnelles que j'ai construit ce jeu, de manière intense aussi avec Marie-Soleil Nouroyer, que je tiens à citer ici, qui était mon éditrice à la Découverte, qui m'a amené à travailler cette implication qui n'était pas simple toujours. Surtout la conclusion où je me livre, véritablement. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions. Alors il y a un livre en manière parallèle, un peu au hasard, il y a le livre aussi d'Ondine Millau qui est sorti début mars, juste avant moi, qui s'appelle « Les monstres n'existent pas ». On est aussi sur un autre fait divers, bon, de manière journalistique, c'est une journaliste Ondine Millau, de Libé je crois, avant. Il y a différents livres qui sortent sur la thématique en ce moment. voilà. Et ouais, au-delà des faits divers, voilà ce que je voulais dire, plus de choses, mais je n'ai pas eu besoin d'aller plus loin. Au-delà des faits divers qu'on peut nous, dont on peut être étouffé au quotidien aujourd'hui lorsqu'on allume sa radio ou autre chose.
J'ai une petite question. Tu cites Foucault pour plein de raisons. Est-ce que tu as été inspiré aussi par son travail sur le crime de Pierre Rivière ou ce genre d'approche? Pas du tout. C'est...
Alors, oui, forcément, je l'ai regardé. J'imagine. J'ai regardé, et puis c'est un ouvrage collectif. Et puis, je sais plus, il y a un auteur dans le livre dont je le cite à un moment donné. Oui, forcément. Forcément, sur la déconstruction d'un crime. Et puis, je pense aussi aux travaux de Philippe Artière, hein, sur les paroles des prisonniers. Alors, c'est un point de vue historique, bien entendu. Mais le livre des vies coupables, je cherche son livre, qui est pour moi une référence au sens où, par les écrits de ces prisonniers, de ces criminels, on peut appréhender des points saillants qui peuvent nous enlever cette fameuse... dire vrai qu'est le criminel né, quoi, qui n'existe pas, bien entendu. Tout ceci une construction sociale. Bon, c'est presque bateau de dire ça aujourd'hui, mais c'est pourtant important de le redire, parce que de manière sous-jacente, on nous le suggère. Pierre Rivière, le livre des vies coupables, et puis dans le texte, je reprends un slam en fait, qu'il a créé, qui n'a pas été cité aux audiences, qu'il a confié à la psychologue pour expliquer sa vie. Et un slam autobiographique. Et à la manière d'Artière et puis de Foucault, du coup, avec Pierre Rivière, j'ai essayé d'étudier comment lui, qu'est-ce qu'il en disait de son histoire. Et donc, il ressort des points saillants, notamment le tissu ouvrier, la violence du père, il ressort aussi l'histoire de Deal, parce que crime sans mobile, mais peut-être qu'il y a d'autres mobiles qu'on ne saura jamais. Et donc, qui ne peut mieux que lui-même que relater sa propre vie. Et donc il voulait vraiment le mettre contre, comme une explication. Il se condamne même à l'issue du slam, où il termine en disant qu'il va passer à la guillotine. Et avec une petite fleur d'ailleurs en signant. Mais ce slam n'a pas été cité au procès.
De l'anthropologie, est-ce que Truman Capote peut toi un contre-exemple, par exemple, dans son expérience d'auteur?
J'ai honte parce que je l'ai sur mon à côté de mon lit, sur le HP, et j'ai toujours pas lu. Enfin, bah oui, je sais bien. Mais il y a sur l'implication, mais c'est central. Mais il y en a tellement. Et puis il y a un moment donné, dire ou pas dire, c'est l'occasion aujourd'hui. Il y a un moment donné aussi, il faut décrocher, quoi. Et Truman Capote, etc. Je l'ai eu il y a un an ou deux. Et j'avoue que les lectures comme ça. Je préfère lire un petit Seigneur des Anneaux le soir, ça me détend. Non, je rigole, il faut que je lise, effectivement.
Ça peut peut-être aider à te démarquer aussi de certaines...
Peut-être, oui.
Truman Capote n'avait aucune éthique.
Justement.
Aucune éthique, il manipulait. Et il n'était pas scientifique non plus, donc il n'y avait pas la possibilité d'être aussi clair dans ses motivations et ses méthodologies.
Dire ou pas dire. Vous disiez que vous aviez des éléments qui pourraient contrevenir à une libération sous condition, etc., que j'imagine sous de la confidence. Est-ce que vous allez être amené à réintervenir dans la, quand il en sera question, en fait, d'ici une petite dizaine d'années?
S'il fait une demande de libération conditionnelle?
Voilà. Et est-ce que vous allez être amené officiellement à intervenir, et est-ce que vous pensez. Dire justement
ou
garder ses
confidences,
en fait.
Mais par rapport à ça se jouera aussi sur son comment son comportement en prison. Moi, j'ai plus rien à voir avec tout ça. Et je suis plus. Alors oui, je me suis pas. Tout à l'heure, j'ai oublié une présentation. Je suis plus éducateur sur le terrain depuis 2014 suite à la thèse. J'étais recruté comme formateur chercheur dans l'Institut régional de travail social à Poitiers. Et donc, j'ai plus aucun lien avec la famille et avec Josué aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui. Mais il ne faut jamais dire jamais, vu le livre, vu les liaisons, je pense que forcément, à un moment donné, on va avoir des contacts. Mais pas dans le cadre judiciaire, j'ai plus mon mot à dire. C'est parce qu'ils jugeront la libération conditionnelle, alors je ne suis pas juriste, hein, mais il y a peut-être des avocats sur son comportement. Voilà, c'est sur son comportement en prison. Et puis c'est la dangerosité potentielle ou pas, voilà, j'imagine.
Moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans ton livre, c'est l'espèce de déterminisme, en fait, assez pessimiste dont tu fais état. En gros, tout le monde a une place, que ce soit le juge qui est à sa place, que ce soit la famille que tu décris qui est aussi à sa place. Et finalement, personne ne sort jamais de sa place. Et tu vois, il y a deux passages qui m'ont marqué. Il y a l'histoire de la carte d'identité.
Oui.
Faire la carte d'identité.
Maestro.
Donc en fait, le père, il est en prison, il ne peut pas signer, il faut un timbre, mais il ne faut pas l'encaisser. Donc ça met, pour un jeune comme ça, il faut avoir une pièce d'identité, mais c'est un combat. C'est édifiant, en fait. On l'a tous vécu à d'autres niveaux pour faire autre chose. Mais il y a un autre passage, alors je ne sais plus si c'est la juge ou quand il dit « j'aurais maître avocat ». Et qu'elle répond à mon petit monsieur, donc avec un passif comme ça, il faut se donner les ambitions qu'on a. Et en fait, j'ai trouvé ça tellement... Alors, je me suis demandé, c'est une vraie phrase ou tu l'as réécrite ?
Non, c'est une vraie
phrase. J'ai trouvé ça incroyable.
Elle ne dit pas vraiment comme ça, la réponse... Il vaut mieux envisager d'autres métiers, etc. Je ne sais plus comment elle
tourne. Mais il y a un truc du genre, les rêves, on n'a qu'à les réaliser, quoi. Et là, on se dit, chacun est en fait condamné à sa place, qu'elle soit du bon, du mauvais côté, etc. Et on ne peut pas en sortir. Enfin, j'ai trouvé ça assez dur, ton livre. Dans le fond, ce qu'il raconte, c'est qu'en gros, on suit des trajectoires dont il est extrêmement difficile de dévier, qu'elles soient...
Oui, mais je pensais à l'anthropologie du sujet, c'est-à-dire que même si, effectivement, il y a un côté déterminisme lié à des assignations identitaires, de la famille, de lui, par rapport aux travailleurs sociaux, etc., il est confronté à la bureaucratie, je pense au livre de David Graeber, bureaucratie, effectivement, même si pour nous c'est simple, lorsqu'on est inséré socialement, pour les jeunes les plus à la marge, refaire une carte d'identité, c'est un parcours du combattant, je peux vous le garantir. Sur aussi 150 jeunes que j'ai suivis, forcément, j'en ai pas croisé beaucoup des criminels. Donc il y a dans moult situations, heureusement, il y a des issues positives.
Et à l'inverse, c'est ce que j'allais dire, t'as eu des issues vraiment positives?
Non, forcément. Oui, bien entendu. Mais c'est compliqué pour les jeunes les plus à la marge, et puis déscolarisés très précocement, avec un parcours familial compliqué. Il y a eu des... Malgré ce déterminisme que tu cites, il y a quand même des points de bifurcation. Je pense à la grand-mère, qui aurait pu être également quelqu'un qui aurait pu être une personne ressource à un moment donné. Je pense aussi à l'armée, bien entendu. Je pense aussi à son projet de karting, à un moment donné, qui était complètement farfelu. Mais ils avaient monté un karting quand même. Mais par contre, il fallait avoir les codes après. Voilà, différentes choses. Et puis les mains. Les mains, alors, je vous dis comme si vous l'aviez lu. Mais il y a une histoire de mains. La main ouvrière, la main du père. Et les mains en or. Le juge lui demande, qu'avez-vous comme qualité? Et Josué indique, durant le procès, moi, j'ai des mains en or. Des mains en or, effectivement, ça ressort dans plein de rapports de stage, en boulangerie, charcuterie, etc., où il savait tout faire de ses mains. Et comme je dis, c'est le trimard. Le trimard, c'est en même temps le trimardeur, c'est-à-dire l'ouvrier itinérant, aujourd'hui qui peut être qualifié de négatif dans les quartiers, mais le trimard, c'est le débrouillard. C'est l'invention du quotidien, je reprends Certeau que citait Philippe Artière. Celui qui se débrouille, qui allait faire du cuivre, qui allait l'épisode des poissons, où il guette les crues de la rivière, et quand il y a des crues, ils vont faire les trous pour récupérer du poisson et les vendre au restaurateur. La débrouille. Ou alors l'épisode aussi où même mes collègues me disaient « Mais David, sois pas naïf, c'est pas réel. » Où il a mis des semaines à creuser dans une maison, parce qu'en fait, il faut savoir que c'est un quartier ouvrier, donc des maisons à coller, on n'a pas de tour. Et donc, dans une maison abandonnée, Josué, il a creusé presque quasiment à la fourchette, je sais pas comment il a fait, dans les murs, frité, qui donnait sur un magasin de pêche derrière, un tunnel. Et il a récupéré des cannes à pêche, et bien sûr, après, il a été pris pour vol, etc. Mais voilà, ce que j'ai essayé de montrer, malgré ce déterminisme, il y a un sujet. Même s'il est devenu criminel, il était autrement. Ou les épisodes de rigolade, comme je l'explique ensemble, ou lorsqu'on le réveille un matin avec une casserole, enfin des trucs, et puis, enfin bon. Donc des moments aussi où il y a eu de la vie, il n'y a pas que de la mort dans cette situation.
Et oui, justement, pour revenir à la musique et se faire un pont avec quel rapport il y a avec... avec ce jeune homme et le slam, justement, est-ce que c'est traité aussi dans le livre ou dans la thèse, profondeur ou...
Non, pas en détail.
Pas en détail, mais je le cite comme quoi un moyen d'expression. À un moment donné, je cite dans le livre, il sort de garde à vue, et puis je le recueille dans le quartier, et puis on va faire une démarche, il doit récupérer une autre convocation chez les huissiers, à l'huissier. Et dans la voiture, il me lit un slam qu'il a écrit en garde à vue, et où il explique un peu sa vie, et se met à pleurer. des mots qu'il pouvait pas dire, à l'oral. Et ce jour-là, je me souviens, on va à mon bureau, et puis je lui file un grand cahier. Je lui dis si t'es incarcéré, parce que là, il y avait le premier risque d'incarcération. Il a été incarcéré pour la première fois pour le crime. Je lui dis écris, Jason, Josué, vas-y, écris pour expier ce que tu penses, quoi. Et puis voilà. Il n'a pas été incarcéré après, je ne sais pas ce qu'il en a fait du cahier, mais il faisait du slam, oui. Mais quand je lis les paroles de Petit Agité des Berruriers Noirs, voilà, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir, quoi.
Le déterminisme est là, ouais, dans la chanson.
Ah oui, et puis Petit Agité, c'est aussi l'histoire de Josué. Hein. Quand je parle de racaille des années 2000. Hein.
Du coup, moi j'avais une question un peu pour rebondir là-dessus. Au départ, vous avez dit qu'il avait eu tendance pendant le procès à surenchérir les crimes qu'il avait commis, c'est bien ça? Enfin, est-ce que du coup vous pensez que finalement ça reflète une volonté, vu qu'il slamait, une volonté de faire une sorte de dernier spectacle, parce qu'il savait que finalement l'histoire était déjà toute tracée pour lui, enfin il savait comment ça allait finir, et qu'il y a donc un côté showman dans la personne.
Non.
En tout cas, je reprends là Balibar dans Violence et Civilité, son livre, philosophe, qui dit qu'à défaut d'être personne, d'être un individu superflu, ça veut dire qu'il est superflu, hein, c'est lui qui se ressent, on peut devenir un hyper-sujet négatif. Un hyper-sujet à défaut de retrouver une identité par la négative. À défaut d'être inséré, à défaut d'être, de se ressentir comme homme jetable, homme jeté, comme on le disait tout de suite avec son histoire, homme non reconnu, 2 mois avant, je rappelle l'histoire du projet à l'armée. Je ne dis pas que c'est A égale B, hein, mais c'est une somme, hein, d'éléments qui se sont cristallisés dans un acte. On peut retrouver une hyper-identité négative qu'il assumait, qu'il n'assumait pas. Hein. Il y a eu des tentatives de suicide. Après, il y a eu des reconnaissances de ce crime. Donc, ce n'est pas qu'une histoire binaire. Hein. Mais à défaut d'être personne, je pense au film Caste criminelle, où un jeune indien dit « Si tu me penses, je vais le dire comme ça de tête, je ne sais plus la phrase exacte, si tu me penses criminel, je peux le devenir. »
Est-ce qu'il n'y a pas, juste pour rajouter sur ce que tu dis, ça donne le sentiment, c'est un petit peu comme les détenus qui en prison s'inventent des règles 10 fois plus dures que ce qu'on leur impose pour avoir juste le sentiment de reprendre le contrôle sur leur vie à un moment où on leur enlève tout. Et moi je pense que ce genre de choses peut être aussi analysé comme ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis le dominé, mais je vais reprendre le contrôle de ma vie et c'est moi qui vais dire ce que je suis et réaffirmer un certain nombre de choses. Voilà, pour redevenir même partiellement le maître du jeu. Enfin, disons que ça
je ne sais pas s'il consentit ça. Je sais pas.
Ça n'infirme pas du tout ce que tu dis, mais on pourrait aussi penser qu'il y a aussi de ça dans cette manière de... Voilà, à un moment donné, c'est moi qui vais dire ce que j'ai fait, qui je suis. Et si tu as inventé, hein, c'est pas grave. Le plus important, c'est que c'est moi qui reprends le contrôle des événements dans le cours de choses qui sont en train de me dépasser. Enfin bon, c'est passé.
Puis il y a une sorte de suicide social. Malheureusement, c'est la victime qu'on a fait les frères. Hein. Mais une sorte de suicide social. Il faut savoir qu'en prison, par exemple, je l'explique dans le livre, à un moment donné, il s'est lardé de coups autant que de scarifier, autant qu'il pense avoir donné de coups à la victime. Donc il y avait une espèce d'identification très morbide avec la victime. Le mobile, on ne le connaît pas, mais il y a aussi effectivement une sorte de suicide social. Hein. C'est encore une hypothèse, hein, bien sûr, on n'est que sur des hypothèses. Hein. Si on est sur des certitudes, ça se...
Première question, alors justement, à la lecture de... Moi j'avais lu l'histoire dans Libé, en fait, et plus tard que j'ai vu l'annonce de ta soutenance de thèse, en fait, j'ai compris immédiatement, je pense un peu comme côté de la réaction que c'était lui, tu vois, ben, j'ai compris que c'était ce crime dont j'avais lu le récit. Et je me suis dit, tiens, il faut que... Parce que je dois dire que cette lecture m'avait mis tellement mal à l'aise que c'était pas des choses que j'essayais de pas penser, quoi. Le fait que j'ai sans doute croisé ce type à l'époque où il était choriste des Berru, tout ça, sans le connaître, et bon... Et du coup, j'ai pas envie d'y penser parce que c'est impensable en fait.
Ah oui, ah oui.
Et du coup, dire que quelqu'un fait une thèse, c'est à la fois rassurant et en même temps, ça le rend réel encore plus parce que je me dis, bon, ben, en fait, on est allé au bout et on peut pas juste rester dans une espèce de lecture superficielle, négative ou pas. Bon. Et du coup, j'ai repensé à l'histoire telle qu'elle avait été décrite et telle que t'en parles. Et j'arrive pas à ne pas penser au fait que y a un élément, je ne sais pas si tu en parles dans le livre, mais qui n'est pas tellement ressorti, mais qui, moi, m'interpelle, c'est le duo qu'il forme avec l'autre, dont on parle très peu, en fait, que tu connais moins, peut-être, et qui, visiblement, est plus effacé, et qui me fait penser beaucoup à des duos de gens qu'on croise dans la zone. Enfin, voilà, c'est-à-dire, c'est des relations de domination, avec des fois d'emprise, même, et dans quelle mesure, en fait, ce m'as-tu vu, ce côté showman, peut-être, vous avez dit ça, etc., vis-à-vis de l'autre, c'est-à-dire montrer la puissance, non pas face au monde, mais face à une personne qui représente le monde, un petit monde à eux, une relation peut-être un peu presque sadomaso aussi, peut-être une espèce d'homosexualité larvée, j'en sais rien, c'est complètement des suppositions, mais une espèce de truc, montrer à l'autre une force toute puissante, une capacité à, justement, tout à coup, à dominer, ouais, à ne plus avoir de limites, de règles, une toute puissance, en fait, qui s'échappe, enfin, qui n'a jamais dans aucune autre situation. Et dans quelle mesure ça a été exploré, ou au procès, ou par toi dans le travail de thèse, cette relation, à mon avis, qui est sans doute une clé aussi de compréhension de... Parce que un crime tout seul, il y a cette mystère de qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Là, ils sont deux. Et deux, c'est pas pareil du tout, parce que justement, il y a un témoin, il y a deux personnes, c'est jamais une seule personne, c'est des nuances, des affects différents. Qu'est-ce qui fait que, justement, il est quand même possible?
Alors, j'y suis pas allé dans la travail de thèse, et puis c'est un reproche, un conseil de Laurent Mucchielli pour un travail à venir futur, donc j'y suis allé dans le livre. Il y a un des psychiatres qui a qualifié les deux hommes de Laurel et Hardy, l'instigateur, le penseur, et puis le bras armé, Josué. Donc ça, c'était une des hypothèses défendues par le psychiatre. Et puis effectivement, quand on revoit la trajectoire sociale des deux hommes, on voit des éléments similaires, la violence, la désaffiliation. Il faut savoir que Kevin Lenôtre, donc son comparse, il avait déménagé à plusieurs reprises, il avait fait un petit séjour en incarcération à Bordeaux, mais il était plutôt intégré à Richelieu, il avait un petit job en tant qu'animateur dans le centre social. Et puis ils se sont rencontrés, et je pense qu'effectivement il y a eu des points saillants entre eux, notamment par rapport à des histoires de deal. Le fond de la trame, il y a sûrement quelque chose dans ce style-là. Des jeunes qui ont pu me dire beaucoup plus tard, qu'on le connaissait. Ils vont récupérer l'arme du crime au domicile de Kevin Lenôtre, et en indiquant qu'on arrive au point de non-retour. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la nuit du crime, la femme de Kevin Lenôtre va accoucher. Donc il y a aussi un aspect encore qui se rajoute, un aspect morbide, étonnant. Et donc, durant le crime, effectivement, il y a une complicité, une surenchère entre les deux hommes, je pense, hypothèse, qui se ressent à travers leur interrogatoire. Au départ, Josué veut dédouaner totalement son comparse, comme il vient d'être papa, et qui s'est marié en incarcération. Mais au fur et à mesure, et au procès, ils seront inculpés pour les mêmes choses, etc. Donc il y a eu une surenchère, je pense, avec un jeune homme qui avait moins de barrières morales et... au niveau de la violence, je pense que c'était Josué qui a commis la majorité des sévices. Voilà. Et donc, c'est compliqué de revenir aussi sur l'histoire de Kevin Lenôtre, parce que j'ai beaucoup moins de données. J'ai les données judiciaires, partielles, et il aurait fallu mener une enquête aussi en parallèle. Je me suis focalisé sur l'histoire de Josué, liée aussi au suivi social que j'ai mis en amont.
C'est là qu'on voit peut-être le... pas dire de biais, mais en tout cas l'axe que prend un chercheur, effectivement, qui va être remonté de manière socio-historique, etc. Là où peut-être, je sais pas, un écrivain, le travail qu'avait fait Emmanuel Carrère, je crois, sur Jean-Claude Roman,
ouais, l'adversaire.
On dit, pourrait prendre justement la relation entre les deux comme la base de tout, en fait, comme une espèce de... Et presque la victime comme...
Oui, il y a pas...
Mais c'est-à-dire que tout se joue aussi dans une relation qui devait être une relation très... très fusionnel peut-être entre les deux.
Il y a un côté un peu Steinbeck, of Mice and Men, des souris et des hommes aussi. Enfin bon, même si le rapport n'est pas le même, mais ils sont embarqués
dans
une aventure un peu.
Avec vraiment une espèce de masochisme de l'un qui sadise l'autre, comme ça, par pur plaisir.
Oui, et puis moi je le dis, c'est Hugues Jalon, l'ancien directeur de La Découverte, qui m'avait évoqué le livre de Carrère. Donc je l'ai regardé, bien entendu. Effectivement, il y a une notion de romancer avec une histoire vraie. Mais depuis le départ, moi je dis que je l'assume totalement. Tout ceci est une reconstitution singulière, liée à ma propre rencontre avec les données que j'ai eues. Et puis j'oserais encore citer Foucault, hein, je cite beaucoup, mais c'est une fiction historique. Et comme il disait, tout mon travail, c'est une fiction historique, au sens d'une reconstitution. Et effectivement, il y a plein de points aveugles. Je vous parlais, l'un des points aveugles qui m'intéresserait, peut-être avec Pind, hein, dans les années à venir, c'est ce lien avec la victime et l'histoire de la victime. c'est une autre histoire. Mais,
oui, tu dis même qu'après, en prison, certains matons lui en veulent parce qu'eux, ils écoutaient
les berrues.
Et que le mec, il a tué un choriste.
Et ça va loin. La dernière fois que je l'ai vu en incarcération, je lui ai demandé est-ce que tu connaissais ce groupe. Il dit mon père, il écoute les berrues.
Voilà, c'est ça. Mon père, il écoute. Oui, enfin, c'est.
Quand je vous redis alter ego, y a un truc à travailler là. Donc c'est encore un point saillant, un point à travailler. Alors, aujourd'hui, je travaille sur les questions de radicalisation avec un centre qui s'appelle Rive à Paris, sur les désengagements de l'idéologie violente. Donc je suis parti un peu sur autre chose. Mais comme dit Artière, il m'a beaucoup touché lors de la soutenance. Je n'ai pas terminé.
Oui, j'avais une question. David, je ne connaissais pas ton travail. Je travaille un peu sur un type de population assez similaire, simplement. Moi, je suis confronté à la question du corps et de la perception du corps. Est-ce que tu as développé ça dans ton travail?
Oui.
Parce que je me demandais la question, complètement bête, est-ce que finalement ce crime n'est pas une expérience du corps, de savoir ce que c'est qu'un corps? Parce qu'il me semble que dans cet univers-là, la question du corps est primordiale, et puis alors aussi dans l'histoire du punk, c'est aussi quelque chose qui est vraiment une des questions dans la dynamique du mouvement, etc. La question du corps est fondamentale. Et donc, ce crime absolument odieux, est-ce que c'est pas finalement une déconstruction du corps pour savoir qu'est-ce que c'est qu'un corps, qu'est-ce que c'est que le corps de l'autre, donc a fortiori le mien?
Très intéressant. Mais alors, il y a deux éléments que je peux donner. Son surnom, c'est Resca. Resca, rescapé de 10 accidents de la route, selon lui, selon son histoire. Il y a une histoire romancée aussi. Et que lorsqu'il me parlait de sa vie, il me montrait son corps, il montrait les cicatrices.
Et oui, je connais bien ça. C'est
l'accumulation
des preuves.
Et là,
accumuler des preuves. Alors, des preuves de quoi? C'est ça.
Et alors, dans les médias, pour revenir à ta question de tout à l'heure, dans les médias, ce qui était assez. Ce qui est assez logique, hein, vous allez me dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est qu'il est, vu qu'il avait un corps assez meurtri. Physiquement, il y avait une caricature de son corps dans les médias pour renforcer la figure du monstre que j'essayais de déconstruire. Et troisième élément, il n'a pas pu réagir durant le procès. Tout était à charge, tout était lourd, c'était le principal accusé. J'y étais et c'était dur à vivre. Mais par contre, il a opposé son corps tout le long du procès. Par moment, il ne regardait plus le juge, il se mettait de côté comme ça. Comme ça. Ou il se levait, il faisait le slammer. Ou alors, il nous regardait, je ne vais pas citer le détail, mais il nous regardait en disant, mais n'importe quoi. Il a opposé son corps, c'était sa seule arme qui restait.
C'est une forme de langage, c'est exact, ce qui me semble, effectivement.
Ah, arme, excusez-moi du terme, c'est pas arme. Mais
le corps parle.
Le corps parle.
Donc, c'est à nous de le comprendre, enfin, c'est à la société de le comprendre, d'une certaine manière. Dans quel état des corps vivons-nous? Ces corps qui sont sales, qui transpirent, et tout, etc., qui saignent.
Qui s'abîment. Il se blessait. Il a sauté d'une fenêtre à deux étages. Je vous raconte pas tous les... Il se fait mal juste avant l'armée. Alors, ce projet aurait pu réussir, mais lui, il se fait mal, se casse une entorse, deux jours avant de rendre le dossier pour aller à Bordeaux.
Alors, c'est la question, est-ce qu'il se fait mal pour se prouver qu'il existe?
Oui, ou alors mettre en échec le projet, tout simplement.
Ouais, ouais. Bah moi, je pense que c'est la question de l'existence. Comment existe-t-on encore aujourd'hui? Bah, ça me paraît une des questions.
Merci.
Je lirai ton livre, parce que c'est pour moi intéressant, évidemment, parce que je me sens très, très proche de tout ce que je viens d'entendre, je ne sais pas du tout.
Merci à vous. Alors je vais me faire un petit peu de pub, hein, c'est le moment. J'ai des étudiants et des professionnels. J'ai mon second livre qui sort au mois de septembre, là, qui s'appelle « Le spectre de la radicalisation. L'administration sociale à l'épreuve du temps terroriste ».
Tu vas revenir, c'est parti.
Ah bah avec plaisir. C'est un plaisir d'être ici. Mais oui, sur la question de l'influence, je reviens sur les parcours d'individus qui ont été déclarés radicalisés. Et surtout, j'essaie d'étudier en quoi ça a influencé et remanié les services sociaux. Et de manière drastique. Les services de prévention spécialisés, il faut savoir qu'ils disparaissent au fur et à mesure des mois. Là. À Trappes, il n'y a plus d'éducateurs de rue, par exemple. C'est un gros problème. Mais on sort du sujet, là.
Vous avez eu quelques premiers éléments de réception du livre?
Alors oui, oui. Alors c'est dans la durée, comme on dit. J'ai eu un article vraiment, vraiment sympa dans Le Monde, Dan Bott. J'ai eu Les Inrecuptibles aussi, un papier en ligne. Il y a eu L'Express il y a quelques jours. Et puis il y a Conversation.
Il y a de quel ordre la réception ?
Ah oui, que de quel ordre vous voulez dire ? Plutôt positif, je ne vais pas me le cacher. Hein. Plutôt positif sous ce que j'ai eu. Alors les négatifs, on peut y aller peut-être, hein, mais... plutôt positif. Vous voyez, un retour sur, sur notamment l'implication, sur la déconstruction d'un fait divers de manière complexe, et puis sur la méthodologie employée, notamment. Et puis sur le sujet. Sujet complexe, et j'y suis allé, quoi. Voilà, c'est de manière triviale, c'est, je pourrais dire comme ça, c'est les retours que j'ai eus. Après, là, il y a M6 qui s'intéresse à faire un truc. Ça va être je vais refuser des médias, et j'en ai déjà refusé. Parce que l'aspect sensationnel
détective,
revient.
Vous détective à la télé, quoi, là, hein, c'est bon.
Morandini et tout le tralala, si on peut éviter. Non, mais.
Vous savez si Pelletier, par exemple, a dit ?
Comment ?
Si Pelletier, par exemple, a dit ?
Ah, je sais pas.
Pelletier, Cochrane, Thierry Pelletier, qui était, ouais. Qui était un éduc, un vieux copain de la victime,
ouais.
Et un auteur très, très réflexif aussi.
Faudrait que je lui. On passe un exemplaire.
Si c'était pas trop douloureux pour lui, ouais, ça voudrait...
On parlait de d'autres personnes proches tout à l'heure, je ne vais pas citer les noms. J'ai hésité. J'ai passé à d'autres personnes, mais j'ai hésité. Mais il y a des vieux punks pictaviens où je suis, qui connaissent des membres aussi de proches de la victime, et qui comprennent la démarche. Après, c'est pas une excuse sociologique, et c'est pas excuser ce qui s'est passé, quoi. Mais c'est essayer de déconstruire cette figure du monstre humain, simplement. Au-delà du cas. Parce que là, forcément, on arrive dans le cas encore. Mais au-delà du cas, j'espère que cette enquête a pour inspirer d'autres collègues à travailler sur d'autres situations. Parce que l'objectif, c'est de faire des constats d'un parcours, comprendre des ressorts sociaux, psychos. Mais derrière, c'est aussi que des individus, des acteurs sociaux, puissent mettre en place des stratégies de civilité pour agir aussi dans les failles, dans les points de bifurcation, auprès de ces jeunes en situation de marginalité avancée. Parce que les crimes, c'est hyper rare. Il y a de moins en moins de crimes, même si on vit dans une société où il y a des attentats réguliers maintenant. Mais la plupart du temps, la victime et l'auteur se connaissent. Enfin, je vous reprends de Mutueli, hein, l'invention de la violence. Voilà, on n'est pas dans une société criminogène. Les crimes sont en baisse. Même si le fait... je dis ça parce que ce livre, j'espère qu'il pourra parler aussi, comme je disais, à trois niveaux tout à l'heure, aussi à des praticiens de terrain pour agir en amont. Je parle de stratégie de civilité, je reprends, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est toujours Balibar dans Violence et civilité, son livre de 2010.
Oui, non, peut-être juste une remarque. Enfin, ça me fait penser peut-être encore à un autre niveau de lecture aussi, effectivement, dans cette idée de, qui est aussi dans le projet Epping, je crois, sur le punk et le vieillissement, etc. Qu'est-ce que c'est de vieillir punk et comment on comprend justement des nouvelles formes de jeunesse en marge, en marginalité. Comment un punk marginalisé à 20 ans voit la racaille des années 2000, quelle sera la racaille dans 20 ans, mais c'est vrai, et quelle sera pour la racaille d'aujourd'hui, un équivalent social, enfin de stigmate social aussi comme ça, et comment sont des formes proches et qui, avec des effets de génération, se différencient, ouais. Comme ça, quoi.
Ouais. C'est un beau sujet. Et puis, moi, ça m'arrivait souvent dans ma petite Renault 21 dans le quartier, de passer, forcément, pour casser un peu les codes, je mettais du quepon dans la voiture. Et les jeunes montaient, et souvent, ils retrouvaient des similitudes, hein, dans les textes, dans l'énergie. Enfin, bon, je ne vais pas vous le faire à vous ici. Mais c'est, voilà, c'est pas antinomique. Hein. Et voilà.
C'est intéressant l'aspect générationnel et cette idée, peut-être aussi, c'est peut-être ça qui est un des points limites dans cette histoire. C'est comme si ça n'avait pas pu se passer, ça n'aurait pas pu se passer avec la génération d'avant, comme s'il y avait une bienveillance, ce qui est une illusion aussi, parce qu'en fait, je pense que plein de gens ont vécu des choses qui montrent que ce genre de situation ou d'indifférence à la vie de l'autre et au manque d'empathie pouvait exister, y compris à l'intérieur des mouvements.
Ah oui, non, mais oui,
c'est. Compagnie, sur les concerts.
C'est sûr.
Oui.
Et du coup, enfin, juste dire, parce que ça c'est personnel, quand Solveig a suggéré qu'on t'invite, en fait ça m'a mis mal à l'aise et je me suis dit merde, je vais pas pouvoir m'excuser, pas venir, etc. Alors même que...
Sur le support par rapport à la
thématique et au fait de réentendre parler de ce film,
je comprends.
En fait, alors même que plusieurs fois j'avais indiqué ton travail à des gens qui travaillaient sur des questions, ça pouvait les intéresser, donc, tout en faisant la pub, j'avais pas envie de m'y confronter. voilà. Mais du coup, en fait, la catharsis est bonne parce que justement, on en parle et ça fait du bien. Ça
non, mais je te remercie.
Non, mais merci. Et juste peut-être, enfin, moi j'ai une question parce que justement, revenir à un aspect méthodologique sur un autre type de crime indicible, impensable, inaudible et surtout au-delà de l'humain ou en deçà de l'humain, c'est l'inceste, parce qu'il y a eu des études récemment menées en anthropologie qui ont à la fois un peu pionnières sur cette question, mais qui aussi font beaucoup bouger en anthropologie sur la question du secret, hein, le travail de Dorothée Ducy, je pense, c'est ça là-dessus, et sur aussi l'expérience limite et le positionnement du chercheur. Hein. Par exemple, Dorothée Ducy, ça a été, c'est pas un reproche qui lui a été fait, mais c'est quelqu'un qui... Un éditeur qui m'a dit j'aurais pas pu publier ça parce que elle parle de, à un moment donné, un informateur qu'elle qualifie, elle l'appelle le diable. Et en fait, cette personne, pour elle, elle ne pouvait pas l'appeler autrement parce qu'en fait, il avait un cynisme par rapport à elle, il savait très bien comment justement la provoquer, même quand elle allait le voir en prison. C'était un type très intelligent, un prof de fac, etc. Et donc, si tu veux, c'est comment aussi à un moment donné le chercheur se dédouane ou en tout cas peut dire aussi j'existe et j'ai le droit d'avoir un point de vue qui peut être un point de vue à un moment donné subjectif, négatif, etc. Et l'autre travail, moi je connais pas bien, mais j'ai vu des comptes rendus sur son travail de Léonore Lequen sur... Parce que là, c'est la question du fait divers. Et ce qui lui a été un peu, non pas reproché, mais plutôt ça a été une question de débat, c'était on peut pas anonymiser en fait. En fait, je sais que si là je google l'histoire, en fait tous les noms que tu as anonymisés, on va les trouver en deux secondes. Mm. C'est ce qui avait été un peu reproché à Léonore Lequen, c'est-à-dire j'anonymise une affaire qu'on va retrouver en deux secondes. Oui. Et dans quelle mesure... là, pour le coup, c'est un peu... Pourquoi on anonymise encore? Parce qu'il faut le faire, parce que les collègues ne comprendraient pas, parce qu'on s'évite un procès, ou parce que c'est une posture aussi, d'une certaine manière, ça donne un...
Ouais, non, mais c'est une bonne question. Il y a l'aspect juridique, hein, déjà. Donc, c'était pas une affaire à huis clos, donc il n'y a pas le souci d'accès aux sources, mais il y a la caution morale, personnelle, ouais. Envers la famille, qui sont pas loin de chez moi, envers la famille aussi de la victime, qui a des enfants, etc., en bas âge. Et comme je disais, il y a eu un article des Conversations, il y a eu une réaction de certains activistes punk, parce qu'ils ont oublié d'anonymer, et moi j'ai trouvé que c'était scandaleux. Effectivement, même si on retrouve en deux clics, par respect pour les enfants de la victime, tout simplement, il est nécessaire d'anonymer pour moi. Alors, il y a la caution morale, et puis on a travaillé aussi la question juridique, forcément.
Et sur cette question des travaux de l'inceste,
Il faut que j'aille voir.
Oui, d'accord.
Ouais, non, je connais pas, non, mais faut que j'aille voir.
Pour avoir fait des études de droit et de spécialité de criminologie, sciences pénales, ce questionnement sur la notion de monstre. Et récurrent pour un parcours, pour être avocate et choses comme ça, et je trouve que c'est intéressant, cette posture de chercheur aussi, sur cette dimension-là. On évite le monstre dans ces situations, et tu vas travailler sur la radicalisation, sur les notions de suicide social, il y a des croisements qui vont forcément émerger.
Ah oui.
Et voilà,
même s'il n'y a aucun moment, je cite le mot radicalisation, parce qu'on dit sur autre chose, mais il y a des points concordants. Et puis le titre Monstre humain, on a longuement hésité. C'était un de mes premiers titres. Et puis finalement, je l'ai laissé. C'est une notion que je n'ai pas inventée, c'est Foucault encore dans les Anormaux. Mais je ne pouvais pas trouver plus mieux. Je ne pouvais pas trouver mieux dans le sens, le point d'interrogation. Il y a un journaliste qui a oublié le point d'interrogation avant-hier. Je dis point d'interrogation, parce que c'est toute la question. Ce n'est pas une affirmation, c'est une déconstruction. Surtout à l'heure de la radicalisation, où la figure du monstre revient à 300%. Abdelkader Mera, pendant le procès, est ressorti aussi. Enfin, on n'en a pas terminé avec tout ça, malheureusement.
L'ambiance est complètement plombée. On va pouvoir faire une pause.